Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Margot Haddad.
Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo.com. Savez-vous qui est l'homme derrière les noms comme Pôle emploi, Vinci ou encore Chérie FM? Eh bien, il s'appelle Marcel Botton et il sera dans un instant en plateau avec nous pour nous parler du processus de naming d'une entreprise. Et puis, pour le décryptage, on parlera du rebond spectaculaire du marché de la publicité en 2021, mais aussi des belles perspectives pour 2022. Florence Doré sera en plateau avec nous. C'est la directrice marketing de la vie division Kantar Media et elle décryptera pour nous les résultats de l'étude. Voilà le programme pour Hebdo.com, c'est parti.
Hebdo.com sur BFM Business.
Et bonjour tout d'abord à mes deux acolytes, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News.
Bonjour Margot.
Et Eric Jaoui, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais vous poser une petite question parce qu'on va parler de naming aujourd'hui. Tout d'abord Frédéric, CB oui. News, ça vient d'où?
CB News, à l'origine, ça, c'est un journal qui s'appelait Communication et Business. Et ce nom appartenait à une agence qui a disparu depuis. Et c'est devenu, voilà, c'est devenu CB News. Il se trouve que, par hasard ou pas, c'était aussi le nom du les initiales du fondateur, Christian Blagès.
Ah, et Eric, Zionsei, votre
agence? Zionsei, c'est Zion dans Matrix, c'est le seul endroit où il y a encore des humains dans ce nouveau monde. Et comme on fait du digital et qu'on a un rapport très humain parce qu'on a une petite structure, Zion nous va bien.
On aime bien ces petites anecdotes hein, sur Hebdo.com. Allez, tout de suite, on passe au Focus.com.
BFM Business, Hebdo.com, le Focus.com.
Et on a l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui Marcel Botton. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur général délégué de Nomen, agence pionnière dans le naming. Vous allez nous expliquer dans un moment ce que ça veut dire, même si on y a touché deux mots lors de l'introduction. On vous doit de nombreux noms de marques, mais surtout les noms comme Pôle emploi, Vinci, Safran, Vivendi, Yaris, Lupo, Chérie FM, Price Minister et beaucoup d'autres. J'aimerais vous poser cette question. Quand on change de nom d'entité, qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a plusieurs cas de figure, mais enfin pour citer les plus fréquents, il peut y avoir une fusion de deux entités et par respect pour l'une et l'autre, on ne choisit pas le nom de l'une ou de l'autre. C'est un cas fréquent. Ce qu'on peut appeler des spin-offs, c'est-à-dire Arkema, par exemple, appartenait au groupe Total, mais ils l'ont séparé, donc il fallait trouver un nouveau nom. Puis il y a des choses moins connues, qui sont par exemple des problèmes juridiques, que Frédéric Roy a évoqué il n'y a pas longtemps. Un sujet fréquent aussi, c'est surtout pour les startups, on a un nom français, on s'appelle Vente Privée, par exemple.
Et l'international.
Et l'international, et là, il y a un problème.
Frédéric?
Mais cela dit, changer de nom pour une entreprise, c'est très fondamental, quoi. Donc c'est dangereux. Il y a pas cette réflexion. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on intègre cette réflexion qui est on vous connaît sous un nom, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, pof,
ouais, ça va changer. Les risques,
c'est un gros risque.
Alors c'est un risque, notamment si le changement de nom n'est que un changement de nom. C'est-à-dire si c'est cosmétique. Là, ça passe pas, effectivement. C'est-à-dire, on va vous dire, oui, mais vous changez de nom, et alors? Bon. Si, par contre, ça correspond à un nouveau projet d'entreprise, à une ouverture sur les marchés internationaux, on a une justification autre que le changement de nom, là, il n'y a pas de problème.
Mmh. Eric?
Est-ce que, du coup, vous avez carte blanche? C'est vous qui avez choisi le prénom de vos enfants, du coup? On se dit, celui-là, non. Il sait, donc on va le laisser faire.
J'ai hésité à m'adresser à une agence, mais je me suis dit que non, il fallait que je le fasse moi-même. Mais je ne désespère pas un jour d'être en charge des noms, des prénoms des enfants des autres.
Hein. C'est possible.
On ne sait pas.
Mais pourquoi le nom marché d'une entreprise, il est important, justement? Pourquoi ça, c'est si révélateur?
Alors, d'abord, ce n'est pas toujours si important. C'est-à-dire qu'avec un bon produit et une bonne communication et un mauvais nom, on peut réussir. Hein.
Bon. Ah bon?
Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Bon. Il y a des entreprises françaises qui ont des noms imprononçables à l'étranger, et puis qui marchent très bien. Je ne cite personne parce que...
Bon, vous pouvez on ne veut pas d'ennui.
On ne veut pas d'ennui, voilà. Par contre, il y a d'autres cas où... alors, je vous en ai apporté un petit peu rigolo. Une entreprise qui veut s'internationaliser, une entreprise croate. Bon.
Ouais.
Elle a un produit qui ressemble à un liquide jaune, qui ressemble au jus d'orange, et puis elle veut venir dans les marchés européens. Je vous ai apporté la bouteille. Alors, je ne sais pas si je peux la montrer.
Pipi.
Bon, et
Pipi. Ah oui.
Ça s'appelle Pipi. C'est donc voilà, ça va être difficile de, pour eux de venir
sur le marché. En France, c'est quoi ? On va rendre ça quoi ? Paye-paye ?
On va y réfléchir, mais même au Royaume-Uni, ça passe pas, hein, de toute façon. Donc voilà. Alors, j'ai pris un exemple un peu anecdotique, il y en a des beaucoup plus sérieux.
Vous avez d'autres choses dans les poches ? Non, je sais pas, j'adore.
C'est tout, j'ai que deux poches. Alors, une pour le mouchoir, une pour ça, vous voyez.
Frédéric ?
Mais je me souviens que vous m'aviez raconté que vous aviez commencé en inventant un logiciel, un générateur d'injures.
Oui,
c'est ça qu'elle m'aime bien.
Un générateur d'injures.
Oui.
Ouais. C'est génial. Et moi, vous m'aviez même donné une sortie du résultat que j'ai gardé longtemps parce que j'ai trouvé très joli.
Quelle mémoire. Alors, effectivement, je partageais les bureaux avec mon cousin à l'époque. Il s'appelait Roland Moreno. Je dis qu'il s'appelait parce qu'il est décédé. Oui. C'est l'inventeur de la carte à puce. Et puis, on bidouillait sur un Apple II, bon, qui avait 16K de mémoire, et avec des floppy disks. Enfin, un truc que vous n'avez pas connu, mais bon, des trucs de fou. Et on rédigeait des petits programmes, et on en a rédigé un qui fabriquait des noms. On lui rentrait des noms, et il fabriquait des noms qui ressemblaient. Donc on rentrait des insultes et ils fabriquaient de nouvelles insultes, glandures, des trucs comme ça. Et même dans les insultes qui étaient sorties, il y avait ballardure par exemple qui était un peu.
Et du coup, il y a une méthodologie. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour trouver le nom d'une marque ? Pareil, un logiciel, comment est-ce que vous faites du coup ?
Une méthodologie qui ne se contente pas d'utiliser des injures, bien sûr.
Non, bien sûr. Mais du coup, comment vous faites ? Vous faites avec un ordinateur aujourd'hui ?
On utilise accessoirement l'ordinateur, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on appelle la plateforme de marque. C'est-à-dire qui on est, qu'est-ce qu'on veut dire, à qui on parle. C'est ça qui est essentiel. Donc partir juste sur créer des noms, ça ne veut rien dire. Bon, il faut vraiment se concentrer sur la plateforme.
Et c'est quoi les tendances actuelles des noms ?
Oui, c'est une excellente question. Alors, Internet a bouleversé un peu les choses. Par exemple, c'est très intéressant d'avoir une marque improbable, c'est-à-dire... Il y a beaucoup de marques avec des Z, avec des Q sans U, par exemple.
Ah oui.
Des choses comme ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a intérêt à avoir une marque qui est un peu unique sur Internet. Si vous appelez la compagnie française des productions alimentaires, pour vous trouver avant d'être bien référencé, ça va être très long.
Ah, c'est pour le référencement, surtout ?
Oui. Si vous appelez Keo, par exemple, Q-U-O, c'est un nom qu'on a créé, pour un client, là vous tapez QEO, il n'y en a pas 36. Mm. Donc Internet, enfin les moteurs de recherche ont profondément modifié ça et vous voyez beaucoup de noms avec des voyelles doublées, par exemple 2O, alors ça c'était très classique. Maintenant
ça,
on voit même
il y a quelques années, ouais.
Oui, mais ça continue.
Ah oui.
On trouve des mots avec 2U à la file, enfin des choses qui n'existent pas normalement.
Et le mot court, ça a toujours été d'actualité ou c'est
non,
en
c'est partie... plus d'actualité maintenant. À cause des applis.
Des applis,
oui. Si vous avez un nom de 4 lettres, alors tout le monde veut des noms de 4 lettres, parce que 4 lettres, ça rentre, vous voyez. 7 lettres, ça rentre pas.
D'accord.
Et c'est qui les personnes qui travaillent pour vous ? C'est des linguistes ?
Ah, c'est un mélange. Il y a des créatifs, hein, ouais. Comme dans la pub. Il y a des juristes. Il y a des linguistes, des gens qui parlent plein de langues. Par exemple, on emploie une Chinoise de Hong Kong qui est partie... qui parle le cantonais, le mandarin, le français, l'espagnol et j'oublie quelque chose, je ne sais plus. Et l'anglais, bien sûr, parce qu'à Hong Kong, on parle anglais. Voilà. Et puis, des gens de marketing aussi. Bon, c'est un mélange comme ça.
Et vous travaillez essentiellement pour des entreprises françaises ou vous travaillez avec des entreprises internationales également pour...
Je travaille pour des entreprises internationales et nous sommes implantés à l'international. On a un bureau à Düsseldorf, on a un bureau à Milan. Donc, sur l'Europe, pour l'instant. Hein. Les autres continents, on va y aller doucement.
Mais bon, quand on s'internationalise, ça n'a plus de limite avec le digital, j'ai l'impression, maintenant.
C'est tout à fait vrai, et c'est d'ailleurs une de nos sources de business. Hein. C'est quand les boîtes, la plupart des boîtes qui réussissent, elles n'imaginent pas au départ qu'elles vont réussir, souvent. Même les start-up, hein. Elles disent, bon, on va faire le marché français, puis des fois, ça mord. Bon. Et d'un coup, on se retrouve avec un nom, on s'appelle chauffeur privé. Ben non, l'international, ça passe pas, il faut changer de nom.
Et BFM Business, c'est un bon nom ?
Ben, vous me posez la question par surprise.
J'allais pas vous préparer à ça.
Ça m'a l'air d'être un bon nom, oui.
Bon, c'est pas mal, ça marche pas mal en tous les cas.
Bon, j'ai l'impression.
Merci beaucoup Marcel Botton.
Merci à vous.
Et
merci
tout de suite, on passe à la chronique de Julien Casqui, Techcom.
BFM Business, Hebdo.com, Techcom.
Bonjour Julien.
Bonjour Margot.
Alors la tech bouscule le métier de communicant. Wistopics, qui mesure les retombées médiatiques des campagnes des entreprises, a interrogé plus de 1200 directeurs de communication et directeurs d'agences européennes. Et la moitié des communicants se déclarent désormais comme très technophiles.
Et oui, c'est deux fois plus qu'il y a 5 ans. Écoutez ce chiffre, 61% des communicants veulent utiliser de nouveaux outils numériques et ils vont investir dans de nouveaux outils numériques. Parmi ces outils, on peut citer des salles de presse digitales beaucoup plus élaborées qu'aujourd'hui, avec la possibilité, par exemple, de retransmettre des événements en direct. Plus d'un tiers des communicants souhaitent aussi se doter d'un digital asset manager. C'est un terme assez barbare, mais ça veut dire un manager responsable, eh bien, d'une base de données interne numérique avec toutes les photos, toutes les vidéos, tous les dossiers de presse de l'entreprise réunis sur une même base, donc centralisée. 33% aussi veulent se doter d'un CRM, un peu ce que font les marketeurs, mais là c'est pour mesurer la performance de leurs actions de communication et aussi des interactions avec les médias et les investisseurs. Enfin, la quasi-totalité des sites internet européens, eh bien, vont être renouvelés d'ici 2024 pour être beaucoup plus sécurisés et plus modernes.
Et la place des réseaux sociaux aussi, je crois, a évolué énormément dans leur stratégie de communication.
Tout à fait. Le réseau social par excellence pour les communicants, attention, c'est LinkedIn. 94% des communicants utilisent ce réseau social. Twitter, 78%. Instagram et TikTok suivent. Certains DIRCOM ont aussi sont de véritables influenceurs avec près de 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux, comme Frédéric Fougera, le DIRCOM d'Emeria, hein, l'ancien Foncia, ou Béatrice Mandine d'Orange.
Et quels sont les grands enjeux à venir pour eux ?
Bah, tout d'abord, c'est la lutte contre la désinformation. Un exemple, Margot, il y a 3 ans, BlackRock, eh bien, s'est fait pirater par des activistes écologiques. Ces activistes écologistes se sont fait passer pour le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Ils ont publié un faux site internet, 2 faux emails et ils ont annoncé un virage sans précédent pour BlackRock dans la sortie des énergies carbonées, hein, du fonds américain. Fake news, évidemment, le Financial Times et CNBC, hein, les deux plus gros médias économiques internationaux, ont relayé cette fausse information et Larry Fink, le patron de BlackRock, a dû démentir dans la foulée. Donc, l'importance pour les communicants, eh bien, de bien authentifier leurs outils de communication. Et pour ça, eh bien, il y a ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain permet d'authentifier, de tracer ces outils de communication. Un quart des entreprises aujourd'hui en France utilisent la blockchain. Enfin, l'autre enjeu pour les communicants, eh bien, c'est de faire en sorte que les outils de communication qu'ils utilisent aujourd'hui, eh bien, soit conforme au RGPD, à la protection des données personnelles. Plus de la moitié des communicants considèrent aujourd'hui que c'est un enjeu prioritaire pour eux.
Merci beaucoup Julien, et tout de suite on passe au JT de la com avec Rebecca Blanc-Lelouch.
BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
Bonjour Rebecca.
Bonjour Margot.
Alors aujourd'hui, on commence ce journal par l'initiative de l'International Advertising Association avec France Générosité qui s'unissent en faveur de l'Ukraine.
Un grand nombre d'acteurs de la communication s'unissent en effet pour un appel aux dons au profit des victimes de la guerre en Ukraine. Agences, médias, marques, plateformes, associations et syndicats professionnels participent à cette mobilisation exceptionnelle pour soutenir financièrement les associations et les fondations qui œuvrent pour aider ceux qui souffrent. Donc à partir de maintenant, la plateforme Infodon est disponible. Elle informe et met en relation avec les organisations qui se mobilisent sur les urgences et pour les victimes de cette crise.
Et un acteur inattendu fait son entrée dans le monde du métavers cette semaine. C'est Evian qui présente son tout premier NFT, Rebecca.
et vient à présenter 20 œuvres d'art NFT créées par l'artiste Sarah Shakil, avec laquelle Evian avait déjà collaboré auparavant. Le but, mettre en évidence l'héritage alpin de l'eau minérale dans cet univers numérique, avec une montagne scintillante. Evian s'est associé à la blockchain Tezos pour la production de son NFT pour minimiser son empreinte environnementale, et 100% des recettes de ces NFT seront reversées au Somerset House Young Talent Trust, qui soutient la nouvelle génération d'artistes. Et tous ces NFT ont déjà été vendus.
L'accent, Rebecca, l'accent. Et si on reste dans l'univers du métavers, on pourrait aussi rencontrer un nouvel arrivant. Et il s'appelle Will, je crois.
Oui, il s'appelle Will et c'est le premier sans-abri du métavers. Il fait partie de l'association Entourage qui soutient les personnes en situation de précarité en France. Il a été conçu avec TBW à Paris. Will sera aussi mis en scène dans une pub diffusée sur les réseaux sociaux et à la télévision. Et il a pour mission d'intéresser et d'interroger les investisseurs du monde virtuel sur le lien social, de ne pas oublier l'entraide et alerter sur l'exclusion dans le monde réel. En fin de cette trêve hivernale, pour rappel, en France, ce sont 300 000 personnes qui vivent sans domicile fixe et 7 millions de personnes qui vivent dans l'isolement.
Et puis, le week-end dernier, Rebecca, c'était le 1er avril. J'espère que vous avez fait pas mal de blagues à votre entourage. Alors, l'occasion de se faire des blagues, et les marques, les premières, ont été au rendez-vous.
Complètement. Alors, je vais commencer par Deezer, qui a fait croire qu'elle allait changer de logo et de nom en tweetant « On en avait assez de commencer toutes nos réunions à 10h. 10h devient, Eric ?
11h.
11h, O-N-Z-E-R. » Donc ça m'a beaucoup plu. Il y a aussi la marque de déodorant Wild, qui a fait croire, mais qui a très bien mis en scène, hein, qu'elle lançait des déodorants au fromage, entièrement naturel, végétalien et durable et sans plastique, en collaboration avec Cheese Geek. Et la troisième blague, ma préférée, c'est Honda qui a fait croire que ses nouveaux sièges allaient être conçus spécialement en pensant au confort des animaux de compagnie.
Ah, c'est pour moi ça.
Ce que j'allais dire.
C'est pour mon chien.
Donc avec des trous dans les sièges qui feraient guise de gamelles pour mettre des croquettes et de l'eau, et aussi des espaces dédiés aux poissons rouges et aux hamsters.
Eh bien, Honda, si vous nous écoutez, je pense qu'il faut y penser en tous les cas. Rebecca, Médiamétrie a publié les résultats de sa mesure Istat Podcast, qui dénombre les écoutes et les téléchargements de podcasts pour le mois de mars 2022. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup dans cette émission des podcasts.
202 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde, contre 175 millions en février, donc plus 27 millions en un mois seulement. En France, 155 millions de podcasts ont été écoutés ou téléchargés au cours de cette même période. Et ce sont France Inter, France Culture et RTL en tête du podium, qui sont les trois premiers médias créateurs de podcasts en tête des résultats. Et ce sont les grosses têtes d'RTL, l'afterfoot d'RMC, les podcasts les plus écoutés au mois de mars 2022. Selon Médiamétrie, c'est un mois historique puisque c'est la première fois que la barre des 200 millions d'écoutes est franchie.
Merci beaucoup, Rebecca.
Merci.
Et tout de suite, on passe au décryptage.
BFM Business, Hebdo.com, décryptage.
Bonjour Florence Doré.
Bonjour.
Alors vous êtes la directrice marketing de la division Kantar Média. Kantar, France Pub et l'IREP dévoilent les résultats du baromètre unifié du marché publicitaire pour l'année 2021 et les tendances également pour 2022. Et vous êtes donc un des piliers de cette étude annuelle. Tout d'abord, pourquoi le marché publicitaire repart autant à la hausse ?
Alors, merci de nous accueillir. Alors, je dis nous, parce qu'effectivement, nous sommes trois acteurs. Et pour reprendre un petit peu le contexte, on a le grand marché de la communication avec le média et le hors-média avec France Pub. L'IREP, ce sont les recettes nettes des régies. Et Kantar, ce sont les volumes et la pression brute des annonceurs. Voilà, déjà, pour le contexte. Donc, pourquoi ça repart ? Bah, déjà, on part de loin, puisque en 2020, on était à des baisses de l'ordre de moins 20 quelques pourcents, moins 23 pour la communication. Donc, à effet de base, on est sur un trend positif. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment rattrapé On est à mi-chemin. Il nous reste encore un petit bout de chemin pour rattraper, pour être au niveau de 2019. Mais les résultats sont globalement quand même excellents, effectivement. Sur la communication globale, qui représente 31 milliards d'euros, on est à plus 17,3% d'augmentation.
Oui, c'est énorme, ouais.
Voilà. Sur les médias, sur l'ensemble des médias, c'est 15,9 milliards d'euros et on est en augmentation de 16 quelques pourcents. Et sur les 5 médias principaux, on est sur 7 milliards d'euros aussi avec des très fortes hausses. Donc voilà, on est sur vraiment un train très très positif.
Et justement, est-ce que cette embellie, vous l'aviez dit, il y a plusieurs médias, est-ce que cette embellie, elle profite à l'ensemble des médias ?
Alors, globalement, elle profite à l'ensemble, mais il y a des médias qui s'en sortent encore mieux que d'autres. C'est-à-dire que, globalement, on n'est pas encore arrivé, comme je vous le disais, au rendez-vous de 2019, pour retrouver la même
traîne.
Exactement. Ouais. Pour autant, il y a des médias qui ont déjà dépassé les tendances de 2019. Alors, le digital, bien sûr, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais la télévision est en progression de 17% cette année, enfin en 2021. Et est déjà au-dessus de 2019, on est à plus 4% par rapport à 2019. Donc déjà, ce média-là, il a largement dépassé les effets de la crise. Alors pour les autres, eh bien, la radio, on est à plus 10, mais on est un peu à moins 4 par rapport à 2019.
Les cartes ont été redistribuées pendant la crise, enfin depuis la crise.
Alors, le digital, bien évidemment, a profité de cette période de crise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au niveau des annonceurs, globalement des annonceurs, donc le marché de la communication, on a vu un transfert de notamment tout ce qui était salon qui n'avait pas pu avoir lieu. Eh bien, tout ce budget, parce que on n'a pas augmenté les budgets de communication pendant la crise, évidemment, mais il y a eu un transfert de budget de toutes ces actions de com qui n'ont pas pu se faire vers le digital. Et notamment sur la distribution, sur la grande conso. Donc, on a vu ce transfert. Donc, qu'est-ce que ça donnera dans les années à venir? C'est la grande question.
Éric ?
Ben moi, je voulais savoir comment est-ce que le digital avait tiré la croissance vers le haut.
Oui, dans le détail,
mais
en fait.
Du coup,
par quels outils ?
Alors, tous les leviers du digital ont profité. Hein. Le SRI a annoncé 24% d'augmentation, 29% par rapport à 2019. Donc, tous les leviers digitaux ont profité. Le display est plutôt en bonne forme. Mais le search, le social, on voit que tous les leviers du digital ont participé à cette fabuleuse croissance.
Surtout les GAFA qui, comme d'habitude, ont tiré le plus profité de toutes.
Alors,
ces
augmentations. Alors, les GAFA ont évidemment profité, bien évidemment, mais quand on regarde, là, c'est l'IREP qui donne ses résultats pour les principaux médias, les 5 grands médias, eh bien, quand on regarde la partie digitale de ces 5 grands médias, on est à plus 32%, donc c'est énorme, et même plus 35 si on y ajoute le DOH. Donc voilà, donc il n'y a pas que les GAFAM, les médias ont profité grâce à la digitalisation qu'ils ont faite sur leurs canaux.
Et qui sont les plus grands annonceurs français de 2021 ?
Alors le premier, c'est Lidl. Il a pris la place à Leclerc, qui était le premier depuis 2 ans. Alors le marché de la distribution a été quand même très très bien, soutenu ou a profité de la crise.
Pendant la crise, ouais.
Donc bien évidemment, on retrouve beaucoup d'annonceurs dans notre top 10, qu'on appelle notre top 10 annonceurs. Il y a 5 distributeurs, donc évidemment Lidl, on en a parlé, Leclerc en deuxième position, mais on a Carrefour et on a aussi un Amazon. Alors Amazon, c'est pas grand distributeur, mais c'est de la distribution spécialisée.
Oui, ça, il y a pas
de doute. Alors Amazon, c'est assez particulier parce qu'il a une augmentation de 55% de sa pression publicitaire brute. C'est la plus forte augmentation.
Mais justement, sur Amazon choisit des médias mainstream. Ça m'a un peu surpris.
Et oui.
Comment ça se fait ?
Et oui, tout à fait. Eh bien, on avait, alors, pas lors du dernier bump, mais sur une édition précédente, on avait regardé justement comment se comportaient ces GAFAM sur les différents médias. Et justement, eh bien, ils sont très, très, très présents sur les médias mainstream et particulièrement la télé.
Parce qu'ils ont besoin, par exemple, aussi, oui.
Tout à fait, pour se positionner en porteur d'images. C'est de la notoriété, en fait, la télévision, par exemple. Donc, ils ont besoin de ça, même si ce sont des digitaux.
Donc la télévision, encore un acteur majeur.
Un acteur majeur qui n'est pas prêt de... Puisque en nom d'annonceur, on est aussi sur des annonceurs qui, à chaque année, rejoignent ce canal.
Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur la RSE, parce que vous avez étudié ça également dans cette étude. Le BUMF fait un focus sur la RSE et constate ainsi que ce ne sont pas les leaders du classement qui consacrent la plus grande partie de leur budget à des communications autour des thématiques sociales, environnementales. Comment ça se fait ?
Alors, oui, effectivement, on a présenté les premiers résultats d'une étude qu'on est en train, plutôt d'un baromètre ou d'un monitoring qu'on est en train de faire chez Kantar. On l'a commencé en 2021. Et en fait, cette étude 2021 nous permet de faire un socle, une sorte de point de départ de ce que va être la RSE, en fait, dans les années qui viennent. Donc, on a trois indicateurs qui sont extrêmement intéressants et qu'on a regardé en détail, qu'on peut regarder et par médias, et par annonceurs, et par secteur. Donc ces trois indicateurs, ça nous donne qu'on a 4% des annonceurs qui ont des messages RSE. C'est quand même
pas beaucoup.
Pas beaucoup, hein.
Pas beaucoup, exactement. 3% des créations publicitaires et qui correspondent à 11% de la pression brute totale du marché. Voilà, donc ça, c'est la base. Et comme je vous le disais, on peut le mettre sur tous les leviers... Donc, effectivement, quand on a ça nous est facile de regarder quel est le ranking des annonceurs ou des secteurs. Et là, effectivement, c'est pas du tout la même chose que sur le classement normal, parce que le premier annonceur en RSE, eh bien, c'est Renault. Voilà, qui est...
Surprise.
Oui, c'est l'inverse. Quoi.
Exactement.
Éric.
Ben, quels sont les médias privilégiés justement pour faire passer ces messages RSE?
Eh bien, encore la télé, voilà, se retrouve d'accord. Quand même. Non, alors, ça, c'est ouais. Pas, ouais. C'est pas tout le monde ne va pas à la télé, mais c'est assez logique.
Pardonnez-moi, encore la télé, mais est-ce qu'elle progresse? Est-ce que c'est le digital qui progresse par rapport à la télé sur ces messages?
La progression, je ne peux pas donner, puisque on a une année de base qui est 2021. Donc d'accord. Là, ce sera dans les années, enfin les mois et les prochaines années qu'on pourra voir quelle est l'évolution. Ce qu'on sait, c'est que la télé aujourd'hui est le média qui accueille le plus de messages RSE, ce qui est assez normal d'ailleurs, parce qu'en fait, on a affaire à des grandes entreprises qui ont fait le travail en amont, parce qu'on ne va pas donner un message RSE à des consommateurs si on n'a pas fait le travail dans
changement,
dans son organisation.
Ouais, ouais.
Et donc, ces grands annonceurs qui sont présents en télé parce qu'ils ont le budget pour y être, c'est qu'elles ont besoin de faire de la com corporate, eh ben, elles ont déjà travaillé en amont. Et, donc, c'est assez logique.
Merci beaucoup, Florence Doré. C'était super de vous avoir en plateau pour décrypter cette étude.
Merci.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com. À bientôt.
Hebdo.com sur BFM Business.